France Musique. Les grands entretiens, Anne Montaron, France Musique.
Je m'appelle Freddy Eichelberger, ou Eichelberger selon votre culture. Je suis né le 14 juin 1961 à Paris 17e et je suis musicien.
Freddy Eichelberger, on a évoqué hier le cycle des cantates de Bach, initié il y a 20 ans, mais il y a dans votre parcours d'autres cycles au long terme, par exemple tout ce que vous avez fait autour du théâtre musical. Et là, je pense aux Witches. C'est parti, je crois, de votre compagnonnage avec la violoniste Odile Edouard.
Odile Edouard et Alain Gervraud avaient organisé un petit festival de musique ancienne dans le Marais. Et il y avait, ça durait je pense 5 ou 6 jours, il y avait tous les jours un concert à 21h et un concert à Pérou à 18h30 qui devait durer une demi-heure. Et là, Claire Michon avait envie de faire un concert avec les masques anglais. Donc les masques, c'est ces représentations qui étaient faites dans cette époque charnière entre la fin d'Elisabeth Ier et puis et Jacques Ier. Qui étaient des grandes représentations théâtrales, dansées, enfin le spectacle total qui était donné une fois, où les gens se ruinaient, les aristocrates se ruinaient pour organiser ça. Mmh. Et ces musiques, elles restent. Et donc on s'est groupés à quatre, donc Odile, Claire Michon, Pascal Bocquet et moi. Et on a essayé ces musiques, on a trouvé ça sublime, et on a décidé de former un groupe, et on s'est assez vite appelé les Witches.
Les sorcières.
Les sorcières. Parce qu'un des morceaux s'appelait First Witches Dance. Mm. Et assez rapidement, au bout de 3-4 ans, Sylvie Bocquet nous a rejoints. Mais il y a eu quand même le premier spectacle qui s'est fait avec la rencontre de Achille Aubry, acteur, metteur en scène. Et on a fait ce spectacle Shakespeare en balade, qu'on a fait au moins une centaine de fois. Enfin, c'était extraordinaire. Et effectivement, ça m'a complètement mis sur le spectacle musical. Enfin, c'est une des deux choses qui m'ont mis sur le spectacle musical. Et l'autre, c'est Sophie Boulin et la péniche opéra.
Oh, Mistress May, where are you roaming? Oh, Mistress May, where are you roaming? Must I have her, your cruel of coming? Must I have her, your cruel of coming? That can sing the smile and low. Three hips of four, her bread is waiting. Jar her may stand in rovers meeting. Every waste man through.
Je dois énormément à Sophie Boulin.
Soprano, donc. Et...
Oui, soprano historique. Ouais. Sophie est une des premières à avoir appris les airs de Lambert, à avoir appris les ornements, à faire les doubles, à avoir appris à danser. Elle sait danser, Sophie. Elle chantait des airs virtuoses avec des airs de coloratour, avec des doubles croches à toute vitesse. Elle savait aussi faire ça, Sophie. Et Sophie m'a proposé de faire le spectacle Délices et tourments sur le mode mineur à la Péniche Opéra. Et on a travaillé 2 mois et j'avais un vrai rôle d'acteur. D'acteur et de musicien.
C'était la première fois ?
C'était pas la première fois que je faisais du théâtre musical, mais c'était la première fois que oui. Mmh. Que j'avais un personnage qui durait d'un bout à l'autre du spectacle. Et on était deux sur scène, costumés avec des... Mmh. Là aussi, les costumes, d'après les tableaux réalisés par la mère de Sophie, avec... c'est là que j'ai vu, j'ai réalisé aussi, c'est-à-dire qu'on avait des vrais costumes Louis XIII, donc, enfin, fin Louis XIII, début Louis XIV, donc vous ne pouvez pas vous habiller seul. Et c'est là qu'on réalise,
oui.
Aristo, on ne s'habillait pas seul, c'était impossible. C'est-à-dire, j'avais des manches à crever avec des rubans, et donc pour que la manche tienne, il fallait que Sophie m'attache mes rubans tous les soirs. Et elle, pareil, je lui serrais son corset. Enfin,
Ouais. On prend la réalité de,
oui,
et du coup, de cette classe.
Oui, puis du coup, le maintien n'est pas le même. Pareil, les chaussures, bon, les talons, les choses, ça c'est... Mmh. Ouais, c'était... Ah oui, c'est, pour moi, ça a été un tournant majeur. Et après, bon, bah, je suis resté compagnon de route de la Péniche et de Mireille Laroche. J'y suis assez souvent retourné. Mais oui, le théâtre musical, ouais, c'est Witches et Sophie.
Un des axes majeurs des Witches a toujours été justement de recréer l'atmosphère d'un répertoire, atmosphère de taverne, donc musique anglaise, musique irlandaise, à mi-chemin entre la musique traditionnelle et...
Bah oui, dès l'instant où vous touchez à la musique renaissance, ou autour des années 1600, etc., vous retrouvez des choses qui sont passées après dans la musique traditionnelle. Et oui, en fait, on a toujours aimé mettre en regard les musiques populaires et les musiques savantes de ces époques-là. Sachant que les gens qui les faisaient, c'était les mêmes. Et donc l'Angleterre, c'était un terrain du jeu mais extraordinaire, extraordinaire. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont été éditées assez tôt, enfin plutôt au 18e, mais quand même des traces avant. Et oui, on essaie de comprendre. Mais les musiques de Shakespeare, les vraies, on les a aussi, hein, musique de scène. Il y a pas mal de pièces où on dit maintenant Ophélie chante Bonnie Sweet Boy ou Bonnie Sweet Robin, je ne sais jamais lequel des deux, mais et cette chanson, on la connaît, on sait laquelle c'est. Donc on avait fait des extraits de Shakespeare avec les vraies musiques de. Alors, il y a celle de Purcell, mais qui est aussi une vraie musique de Shakespeare, puisqu'elle a été composée exprès pour. Mais nous, c'était la musique contemporaine, en fait, qu'on faisait. Oui, le côté taverne aussi. Oui, on aimait bien, on trouvait ça stupide de jouer du playford et de la musique irlandaise avec des gens qui assis dans des fauteuils dans une salle de spectacle, ça n'allait pas. Donc on insistait lourdement. Et on s'était fait avoir plusieurs fois, donc à la fin, c'était presque dans le contrat, on marquait qu'on exigeait que
les gens dansent,
que les gens aient à boire, que les gens aient à boire et soient sur des tables.
Ah oui.
Au moins à boire. Mm-hmm. Et en général, ils avaient aussi à manger des fois, mais bon, ouais, non, ça c'était une très belle expérience. Puis il y a eu quand même de. On a plus fait Europe du Nord, hein, quand même. Hein. Danemark, Angleterre, Flandre.
Flandre, oui.
Allemagne. Mm-hmm. Là, on a arrêté parce que, bon, au bout de 23 ans, c'est bien, il faut tourner des pages. Hein. Et puis, on a tous aussi tellement d'autres projets. Voilà, mais. Oui, ça a été assez formidable de liberté aussi.
Beaucoup d'improvisation aussi.
Oui, bien sûr.
Dans les Witches.
Oui, oui. Oui, beaucoup d'improvisation.
France Musique, les grands entretiens de Freddy Eschelberger.
De se retrouver justement en situation de jeu comme ça, de jeu théâtral, ça vous est venu assez naturellement ou vous avez dû le travailler ça?
En tant que jeu théâtral, avec Sophie, ça avait été l'énorme travail. Mmh. Et en tant que manière de se présenter sur scène et de défendre sa musique, ça c'était plutôt avec Yves. En fait, lui il avait dit, Bon, moi, je veux bien faire des spectacles avec vous, mais votre musique, moi, à la base, je la trouve chiante, donc il faut en faire quelque chose. Et pas facile à entendre, mais il avait raison.
Brut de décoffrage.
Oui, mais il avait raison. Il avait raison. C'est-à-dire que il fallait vraiment, pour qu'elle passe vraiment au plus grand nombre, il fallait la faire vraiment vivre. Et qu'on se repose pas sur nos lauriers, que cette musique était magnifique et que chacun de nous trouvait que les trois ou quatre autres jouaient magnifiquement et que ça suffit. Ben non, ça suffit pas forcément. Ouais.
Qu'elles soient incarnées, quoi.
Oui. De toute manière, ça m'a beaucoup aidé par la suite sur la manière de se présenter quand on joue en public. La manière de se tenir, la manière de... En fait, les signaux qu'on envoie, quand on rentre sur scène, la manière dont on regarde les gens, la manière dont on va leur parler, la manière dont on s'habille, même presque, la manière dont on va s'asseoir, toute cette transmission. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on rentre sur scène, on est déjà un personnage public. Dès le premier pas dans la lumière. Et on gagne à se comporter comme le musicien qu'on va être et pas la personne qu'on est dans le privé. Et ces deux personnes-là, elles ne sont pas forcément si différentes. Mais c'est pour moi juste une question de conscience et de présence. De savoir ce qu'on fait. On va être au service de... au service de gens, pardon. On doit leur amener quelque chose, et donc on doit se camper. Même si on se campe avec douceur, avec des gestes tendres, même, je sais pas, enfin bon, mais c'est important, et il y a trop de musiciens qui pensent pas à ça, qui savent pas marcher sur une scène, qui arrivent sur leur clavier, et qui tout d'un coup, quand ils jouent, là, ils n'arrivent pas à jouer, et puis tout d'un coup, ah, oui, allez, d'accord, oui. Mais... je pense que la manière de se poser au départ aide le public à se concentrer aussi. Et aide à créer un espace sacré, on en parlait. Enfin, dès le départ, parce que par son attitude, le musicien fasse comprendre que ça va être autre chose, qu'on passe dans un autre espace-temps.
Concert, c'est un moment de transmission.
Oui.
Ouais.
Oui, ça fait longtemps que ça dure. À la Renaissance, pour eux, la musique, c'était, au Moyen-Âge aussi, c'était mettre dans l'espace-temps, ils appelaient peut-être pas ça encore comme ça, mais faire entendre, c'était faire entendre des réalités mathématiques, abstraites, pour eux. Donc c'était rendre visible l'invisible. Donc, enfin, rendre audible l'invisible, donc. Et je pense que ça n'a jamais changé depuis.
Tout à l'heure, Freddy Eschelberger, vous évoquiez l'importance d'être, de bien se tenir sur scène, ou en tout cas de se tenir, d'être déjà, dès les premiers pas sur scène, en position de musicien qui va transmettre quelque chose. Et finalement, c'est pas vraiment la position de l'organiste et la position du continuiste au départ, ça, parce qu'il est souvent dans l'ombre dans les églises, l'organiste, par exemple. Et le continuiste, il est un peu... C'est pas lui qu'on regarde en premier.
Oui, mais alors c'est un piège. Combien d'organistes, effectivement... comme on les voit pas, arrive sur le banc, puis Strémousse parle jusqu'au dernier moment avec le tireur de jeu, puis il fait ça, machin, truc. Enfin bon, moi je dois à Odile Bayeux, je ne dois pas que ça, évidemment, je lui dois énormément, mais je lui dois de m'avoir dit un jour, quand tu te mets à l'orgue, tu te comportes comme si on te voyait. C'est-à-dire tu ne te disperses pas à faire le con et à faire des plaisanteries comme ça. Bon, dès le début, il faut que tu sois là. Et surtout, c'est un piège. Concentration, il faut que tu te comportes comme si on te voyait. Et ça, j'y pense toujours. J'y pense toujours depuis. C'est que c'est en se comportant comme si on était vu que le public nous perçoit d'autant mieux. Parce que l'énergie de départ est une énergie aussi, qui est une énergie concentrée et dirigée vers le public. Et ça, je crois que ça s'entend, j'en suis sûr, absolument sûr.
Évoquer un ou deux peut-être grands chocs que vous avez eus en tant qu'auditeur au concert.
Le premier choc qui me vient à l'esprit, c'est le petit orgue de la cathédrale de Metz, qui était d'abord joué par Norbert Petri, mais bon, j'avais 16 ans, j'ai entendu cet orgue qui était en mésotonique. C'était la première fois que j'attendais du mésotonique de ma vie. Et cet orgue qui sonne merveilleusement. Tout petit bignou là, perché à 18 mètres de haut dans cette immense cathédrale et qui, avec ses 8 ou 9 ou 10 jeux, remplit complètement la cathédrale. Et ça, c'était un choc, mais vraiment un choc. Dans le désordre, un concert de Michel Petrucciani, où il était d'abord en quintette et il est revenu tout seul. Et il a dit, voilà, j'ai joué pendant une demi-heure tout seul, je sais pas ce que je vais jouer. Je suis improvisé, il y aura peut-être des thèmes de chansons que vous allez reconnaître ou pas, et voilà, je pars pour une demi-heure, donc voilà. Et non seulement je trouve qu'il avait fait ça admirablement, j'avais été très touché, mais je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Higelin, sur scène.
Ah oui.
J'ai jamais vu une bête de scène pareille. Où il rentrait sur scène et en 30 secondes, on était complètement transportés. Un concert de Jean Boyer à Saint-Omer, sur ce grand orgue, ce grand cavaillé-école, là. Un concert d'Odile Bayeux à Skelbeck. Un concert du grand orchestre philharmonique, là, à Zagreb. Sacre du printemps, j'avais entendu le Sacre du printemps en disque comme tout le monde. Mais bon, ben voilà, le Sacre du printemps, voilà quoi, le Sacre du printemps. Et là, en vrai, je le rêve d'entendre maintenant avec des cordes en boyau, comme ça avait été fait à l'époque, pour qu'il y ait en plus ce grain de timbre de boyau en plus, ça devait être sauvage. Mm. Ça devait être sauvage, quoi. Sauvage. Puis quoi encore mon premier concert de rock, Supertramp. La première fois que j'ai vraiment un grand concert de rock dans un grand lieu où je voyais des gens justement jouer live une musique que je connaissais en disque. Là, j'ai bien entendu la différence et bien compris les enjeux. Où sur scène, il y avait l'instant, le partage, justement, ce lien avec le public et puis donc les digressions par rapport au disque et tout. Ah oui. Je trouve ça merveilleux, quoi. Et que j'ai compris à quel point le son était déchet sur les disques studio.
Des clavecinistes ?
Des clavecinistes, oui, Blandine. Mmh. Verlet. Les Goldberg, par Blandine Verlet. Ça, c'était mais stupéfiant. Parce que Blandine n'avait pas de limites. C'était la... l'honnêteté même, la rigueur, la... la fantaisie, un peu la folie. Et c'est la première fois que j'ai entendu un truc pareil au clavecin. C'est-à-dire qu'il y avait des variations où elle se... par moments, elle se vautrait, mais... elle se vautrait dans le mur, mais c'était... mais splatch, quoi, mais... Et puis elle se reprenait, évidemment, mais... parce qu'elle allait au bout de son idée, et puis bah, ça suivait pas, donc splatch, quoi. Et des moments où ça touchait au sublime. Mais au lieu d'avoir les variations Goldberg, où, où c'est tellement souvent... bon, de la, c'est souvent magnifique, hein, puis je veux dire, faut se faire taper les Goldberg, hein, donc les gens qui travaillent ça, en général... bon, respect, hein. Respect. Mmh. Qui que ce soit. Mais souvent, on entend une musique élaborée, destinée à meubler l'insomnie avec des canons et puis machin. Là, c'était un truc en 30 épisodes qui passait de l'extrême douleur à la félicité totale et la joie plénière en l'espace de 2 minutes. Mmh. C'était ouais, stupéfiant. Complètement stupéfiant.
Blandine Verlet, interprète visionnaire des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, c'est en tout cas comme cela que Freddy Eschelberger l'a toujours perçu. C'était le 4e épisode des Grands Entretiens du claveciniste et organiste Freddy Eschelberger, réalisé par Marie Groux avec Pierre-Henri, Valérie Lavalard, Benjamin Thuot, Flora Sternadel et Aude Vassan. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Podcast et réécoute sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.